VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mardi 20 juin 2017, en direct de Washington, Idrissa Seluya et Jean-Roger Bion. Nous commençons par les titres.
Au Mali, le procureur établit à 9 morts le bilan de l'attaque terroriste de dimanche contre le campement de Kangaba.
Au Togo, 8 étudiants interpellés la semaine dernière lors de manifestations à l'université de Lomé, toujours détenus.
En RDC, le ministre de la Justice assure que l'opposant en exil, Moïse Katumbi, peut rentrer dans son pays quand il veut, mais il devra se présenter devant un juge.
Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, va annoncer aujourd'hui le départ de plus de 600 soldats congolais accusés d'agression sexuelle en Centrafrique.
Le président Donald Trump dénonce le régime brutal de Pyongyang après le décès d'Otto Warmbier, l'étudiant américain libéré récemment par la Corée du Nord.
Réaction énergique de Washington à la menace de la Russie de traiter désormais les avions de la coalition dans le ciel syrien comme des cibles.
En France, la police antiterroriste saisie après l'attentat manqué d'hier à Paris sur les Champs-Élysées.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Direction le Mali, retour sur l'attaque contre le campement de Kangaba dimanche près de Bamako. Elle a fait 9 morts, 4 civils, tous des clients du campement, un soldat malien et 4 assaillants. La force spéciale malienne a pu arrêter aussi des suspects et un terroriste. À Bamako, nous retrouvons notre correspondant Kassim Traoré.
C'est le procureur antiterrorisme qui a fait le point de l'attaque contre le campement Kangaba. L'intervention de la force spéciale malienne a pu sauver 36 personnes, 11 nationaux et 25 expatriés, dont 4 enfants de 5 à 14 ans. Boubacar Sidiki Samake, procureur.
Il y a eu 5 décès, et parmi lesquels nous déplorons le décès du caporal Zani Kassimbri, qui, au prix de sa vie, a lutté pour finalement tout le peuple malien. Et pour ça, je crois bien.
Les victimes sont un Français, une Malienne, un Chinois, un Portugais, un élément de la garde nationale et 4 assaillants.
En ce qui concerne les investigations, nous avons les éléments de la police technique et scientifique. Donc, ils sont en train de recueillir des indices. Les mêmes méthodes qu'on a utilisées pour les autres cas, nous allons aller un peu au-delà de ça, puisqu'il y a un groupe d'enquêteurs spécialisés.
La dernière attaque djihadiste visant des Occidentaux dans la capitale malienne remonte à mars 2016 contre l'hôtel nord-sud de Bamako, abritant la mission de l'Union européenne qui entraîne l'armée malienne EITM. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Togo, 8 étudiants interpellés la semaine dernière à la suite de manifestations à l'université de Lomé sont toujours en détention. Le point avec Morgane Guériac.
Au total, 8 étudiants sont encore détenus et nous exigeons leur libération immédiate, a déclaré le président du mouvement pour l'épanouissement de l'étudiant togolais. Des responsables de la police ont reconnu avoir interpellé des étudiants, mais n'ont pas voulu préciser le nombre. La semaine dernière, des affrontements ont opposé la police à des étudiants qui exigeaient de meilleures conditions d'éducation. Les manifestations ont été dispersées manu militari à coups de gaz lacrymogène. Des vidéos d'une rare violence montrent des scènes où les forces de l'ordre rouent de coups des étudiants en les traînant par terre. Selon les responsables de l'université de Lomé, ces manifestations n'étaient pas autorisées et la Ligue togolaise des droits des étudiants n'est pas une association autorisée à mener des activités sur le campus. Les étudiants exigent la construction de nouvelles salles de cours et une augmentation des bourses de 12 000 à 20 000 francs CFA par mois.
Au Burkina Faso, l'avocat de la famille de Thomas Sankara a annoncé lundi que la contre-expertise réalisée sur les restes présumés de l'ancien président burkinabé n'a permis d'observer aucun profil génétique. Les corps présumés de Sankara et de ses 12 compagnons tués avec lui lors du coup d'État de 1987 ont été exhumés fin mai 2015 afin de déterminer avec certitude l'identité des victimes et d'élever le voile sur les circonstances de leur mort. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette édition.
République démocratique du Congo, l'opposition en exil, l'opposant en exil, Moïse Katumbi, peut rentrer dans son pays quand il veut, mais il devra se présenter devant un juge. C'est l'assurance du ministre congolais de la Justice quelques jours après les déclarations de M. Katumbi annonçant son retour imminent au pays. Abdourahmane Dia.
Selon Alexis Tambwe Mwamba, quand Moïse Katumbi rentre au Congo, il se retrouve dans la situation qui était la sienne au moment où il était parti. L'opposant a été condamné à 3 ans de prison pour une affaire immobilière. Il avait été autorisé à se rendre à l'étranger pour subir des soins médicaux depuis mai 2016. Les autorités congolaises avaient promis de l'arrêter dès son retour. M. Katumbi a assuré vendredi à Paris que son retour était imminent après une intervention du Comité des droits de l'homme de l'ONU demandant à Kinshasa d'autoriser son retour et de garantir sa sécurité. Ex-allié du président congolais Joseph Kabila, Moïse Katumbi est passé à l'opposition en septembre 2015 après avoir démissionné de son poste de gouverneur de l'ex-province du Katanga et à la même occasion, il a quitté le parti présidentiel. M. Katumbi a porté plainte le 2 juin auprès du Comité des droits de l'homme de l'ONU à Genève contre le gouvernement du président Kabila qu'il soupçonne de vouloir l'empêcher de se présenter à la présidentielle théoriquement prévue avant la fin de l'année. Le ministre Tambwe Mwamba a indiqué que l'injonction de l'ONU ne changeait strictement rien à l'affaire.
Conférence de presse aujourd'hui du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour annoncer le départ de plus de 600 soldats congolais travaillant pour l'ONU en Centrafrique et accusés d'agression sexuelle. C'est ce qu'on dit hier des responsables de l'ONU. Un rapport accablant d'un responsable de la mission de l'ONU en Centrafrique, la MINUSCA, avait menacé de rapatrier ses soldats si rien n'était fait au sein du bataillon visé.
Outre des agressions sexuelles, ces soldats sont accusés de trafiquer du carburant et de manquer de discipline. L'an dernier, 120 soldats de ce même contingent ont été renvoyés chez eux à la suite d'allégations d'agressions sexuelles sur au moins 7 victimes, dont 6 enfants.
À Rome, entre-temps, un accord de paix prévoyant un cessez-le-feu immédiat a été signé lundi sous l'égide de la communauté catholique de Sant'Egidio entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés. Le point, Ikiabadou.
Nous saluons un accord historique pour la République centrafricaine, s'est félicité le président de Sant'Egidio. Après 5 jours de négociations, les parties se sont engagées à un cessez-le-feu immédiat sous le contrôle de la communauté internationale. L'accord a été rendu public au siège romain de cette communauté, très impliquée dans les médiations en Afrique. Le gouvernement de Bangui devra se charger d'obtenir la représentativité des groupes militaires à tous les niveaux, poursuit l'accord, ainsi qu'à la reconnaissance de ces groupes comme partie prenante de la reconstruction. Sur le plan sécuritaire, les signataires s'engagent à la reprise de la libre circulation des personnes et des biens et à la mise en place d'un mécanisme conjoint de sécurité. Des membres des groupes armés feront l'objet d'une insertion dans les forces de défense sur la base de critères préétablis et suite à une mise à niveau. Sur le plan social et économique, les signataires s'engagent entre autres au retour de tous les réfugiés et personnes déplacées et à la mise en place de programmes nationaux de reconstruction et de développement.
En Guinée équatoriale, des centaines de militants du parti au pouvoir ont manifesté à Malabo pour condamner, je cite, l'ouverture du procès en France de Théodorin Obiang, vice-président et fils du président équato-guinéen. Le point avec Tatiana Mosso.
Geronimo Osaosa Ekoro, secrétaire général du parti au pouvoir, a dénoncé hier une mascarade judiciaire illégale, arbitraire et instrumentalisée par la justice française et Transparency International. Il a lu sa déclaration devant l'ambassade de France à Malabo à l'ouverture du procès à Paris en l'absence de l'accusé. Sur des banderoles de manifestants, on pouvait lire « Non à la déstabilisation de la Guinée équatoriale par la France ». Pour empêcher toute rediffusion des audiences, les chaînes de télévision internationales ont été coupées. Théodorin Nguema Obiang Mangue, bientôt 48 ans, est un ancien ministre de l'Agriculture et des Forêts promu vice-président par son père. Il est poursuivi à Paris dans un procès dit des biens mal acquis. Il est accusé par la justice française d'avoir assouvi ses goûts de luxe en puisant dans les caisses de ce petit état pétrolier où de nombreux habitants survivent avec moins de 2 dollars par jour. Il risque jusqu'à 10 ans de prison et son procès est prévu jusqu'au 6 juillet.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé hier Djibouti et l'Érythrée à résoudre pacifiquement leurs différends frontaliers sur fond de tensions régionales. Djibouti a accusé l'Érythrée d'avoir profité du retrait du contingent du Qatar pour occuper une partie du territoire revendiqué par ces deux pays de la Corne de l'Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a dénoncé hier le régime brutal de Pyongyang après le décès d'un étudiant américain rapatrié dans le coma au terme d'une détention de plus d'un an en Corée du Nord. « C'est un régime brutal », a déclaré M. Trump peu après l'annonce par la famille de la mort du jeune homme de 22 ans. Otto Warmbier avait été arrêté par le régime communiste en janvier 2016. À son retour aux États-Unis le 13 juin, il présentait de graves lésions cérébrales.
En France, la police antiterroriste a été saisie après l'attentat manqué sur les Champs-Élysées, perpétré hier par un homme de 31 ans islamiste radicalisé qui a foncé avec sa voiture sur des gendarmes sur les Champs-Élysées.
La Minute Éco, Jacques Aristide.
Jacques Aristide pour la Minute Éco sur VOA Afrique. Le secteur hôtelier se porte bien en Afrique en dépit des problèmes économiques. D'après le réseau d'experts W Hospitality Group, dans sa dernière enquête, il révèle que le développement d'hôtels a augmenté de 13% depuis le début de l'année sur le continent. L'an dernier, le nombre de chambres d'hôtels avait atteint pratiquement les 64 000 répartis dans 365 hôtels, ce qui représentait 30% de plus qu'en 2015. La capitale rwandaise Kigali accueille en octobre prochain le 7e Forum africain d'investissement hôtelier. Le groupe Barclays Africa a indûment bénéficié d'un plan de sauvetage durant l'ère de l'apartheid en Afrique du Sud et doit rembourser 1,125 milliards de rand. Selon la médiatrice de la République, Boussissiwe Mwebane, la banque a nié tout acte répréhensible et se dit convaincue qu'il n'y aura rien à rembourser au gouvernement sud-africain. Aggravation du déficit commercial du Maroc de 13,1% durant les 5 premiers mois de cette année, selon l'office d'échange du pays. Il a atteint plus de 78,44 milliards de dirhams contre 69,35 milliards à la même période l'an dernier. L'accroissement des importations est notamment attribué à la hausse des produits énergétiques, des biens d'équipement et des produits alimentaires.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Coupe des Confédérations 2017, l'Allemagne réussit son entrée dans la compétition.
Une victoire, 3-2 devant l'Australie. Les buteurs allemands sur la pelouse de Sochi s'appellent Sindel, Drexler et Goretzka. Rogic et Djuric avaient réduit le score pour les Australiens. On rappelle que dimanche, le Cameroun s'est incliné 2-0 face au Chili. Prochain match demain, Russie-Portugal et Mexique-Nouvelle-Zélande.
Retour en Afrique avec la Ligue des Champions.
La quatrième journée de la phase de poule, 3 matchs ce mardi. L'AS Vita Club au bord de l'élimination accueille Saint-Georges au stade des Martyrs à Kinshasa dans le groupe C. Le choc à Casablanca entre le Wydad et Al Ahly d'Égypte dans le groupe D. Et puis à Khartoum, El Merreir espère se reprendre en accueillant le Ferroviaro de Beira dans le groupe A.
Et en coupe CAF aussi, les choses sérieuses reprennent.
7 matchs au programme, dont Oroya de Guinée qui reçoit le CF Mounana du Gabon, le tout-puissant Mazembe en déplacement chez le Supersport d'Afrique du Sud dans le groupe D.
Nouveau scandale à la FIFA.
En tout cas, la justice interne de la FIFA, dont les responsables ont été récemment remplacés, eh bien cette justice interne a enquêté avant cela sur le rôle de Gianni Infantino dans l'élection du président de la Confédération africaine de football. Avant que son mandat arrive à son terme, en mai dernier, le magistrat suisse Cornel Borbelli, président de la chambre d'instruction de la commission d'éthique, avait ouvert une enquête sur 2 possibles agissements de M. Infantino en faveur de l'élection du malgache Armat Armat en mars à la présidence de la Confédération africaine de football. Selon l'édition dominicale du quotidien britannique The Guardian, M. Infantino aurait promis à plusieurs présidents de fédérations africaines d'accélérer le versement d'aide à leur fédération en échange de leur soutien à M. Armat.
Cyclisme, la 5e étape du Tour de la RDC reportée.
L'étape d'hier devait se courir entre Massim Manimba et Kenge. Eh bien, elle est renvoyée à aujourd'hui. En cause, l'arrivée tardive de la délégation à Massim Manimba dans la province du Kwilu en Provence, en provenance de Lubumbashi. On rappelle que le Belge James Brendan reste maillot jaune.
Avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les experts n'ont pas réussi à identifier à l'aide d'analyses ADN les restes supposés appartenir à Thomas Sankara, l'ancien président burkinabé assassiné le 15 octobre 1987 lors d'un coup d'État de Blaise Compaoré. Cette expertise était très attendue pour la suite de l'instruction du dossier devant le tribunal militaire. Bagassikoura a joint à Ouagadougou Prosper Farama, l'un des avocats de la famille Sankara.
Ce qui avait été précédemment dit par le premier rapport, les résultats n'ont pas pu être concluants. Ça confirmait tout simplement la première conclusion de la première expertise.
Et ça veut dire quoi? Qu'on ne sait pas où se trouve le corps de Thomas Sankara?
Non, ça veut dire simplement que les experts n'ont pas pu, au regard des éléments qui étaient à leur disposition, simplement établir des résultats positifs. Ils n'ont pas pu, si vous voulez, travailler pour tirer des conclusions qui puissent être indiscutables.
Est-ce que cela sème davantage de doutes sur le corps même de Thomas Sankara? Est-ce que la tombe lui appartenait vraiment?
Ah oui, là, ça laisse susciter, en tout cas en ce qui concerne, on va dire, l'identification de la tombe, évidemment que ça laisse susciter des doutes, non seulement pour Thomas Sankara, mais pour tout, pour l'ensemble des personnes qui ont été enterrées avec lui. Rien aujourd'hui ne permet de confirmer qu'effectivement, les noms qui ont été mis sur chacune de ces tombes étaient avérés. Le doute, comme vous le dites, persiste aujourd'hui. En tout cas, en ce qui concerne l'identification des restes et des tombes.
Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce qu'il faut d'autres expertises ou est-ce qu'on procède quand même avec le procès?
Non, il n'y aura pas d'autres expertises parce qu'on était déjà à une contre-expertise. On ne pense pas que, de toute façon, de point de vue légal, la loi permet une contre-expertise. Ben, c'est ce qui a été fait et je pense aussi que d'un point de vue pratique, écoutez, après avoir consulté de grands cabinets d'expertise qui aboutissent au même résultat, il ne semble pas utile de poursuivre sur ce chemin. Maintenant, est-ce que ça a une incidence sur la suite du procès? À mon avis, non. Parce que ce qui nous importe en tant qu'avocat, c'est de constater et de tirer la conséquence que Thomas Sankara et ses compagnons ont bel et bien été assassinés, ce qui n'est discuté aujourd'hui par personne. Et maintenant, c'est d'aller vers un procès pour établir la responsabilité des personnes qui ont été mises en cause dans cette affaire.
Alors, avec ces résultats, on peut imaginer que le procès va intervenir très bientôt, alors?
Ben là, je ne saurais vous le dire. Seul le juge d'instruction pourra vous dire à quel moment, à peu près, il en aura fini avec son travail d'instruction. Et seulement après ça, nous, on sera informés éventuellement d'une date probable de procès.
Prosper Farama, l'un des avocats de la famille Sankara.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Pour revenir sur le Mali, l'insécurité semble devenir chronique et n'épargne personne, soldats, civils et touristes. En une semaine, une dizaine de soldats maliens ont péri dans 3 attaques terroristes entre Ansongo, Bintagungu et Bamako. C'est dans ce climat que le gouvernement malien veut organiser un scrutin référendaire sur l'ensemble du territoire. Il se fonde en cela sur un avis de la Cour constitutionnelle qui évoque une insécurité résiduelle. De Bamako, nous retrouvons Kassim Traoré.
La situation sécuritaire demeure une préoccupation pour les Maliens. L'insécurité gagne du terrain de jour en jour. Malgré cette situation, le gouvernement veut organiser le référendum le 9 juillet prochain. Mamadou Diawara, fonctionnaire.
Le référendum là est nul et non avenu. Les Maliens ne vont plus considérer ça parce qu'on est tombé dans une situation dont les conséquences se font encore sentir. Comme l'a si bien dit, le peuple malien est un peuple mûr. Il n'a de leçons à recevoir des personnes. Il sait où va et comment y aller. Un gouvernement qui n'a pas d'espoir est un pays qui est parti en dérive. Parce qu'Ibeka, vraiment, il ne donne pas quoi. Il ne peut pas servir le Mali comme ça. Le Mali est tombé en chaos. Dans 2 ans seulement, le Mali ne peut pas s'en sortir encore. Il faut qu'on trouve une solution à ces problèmes-là très rapidement.
Dans Songo à Bamako, en passant par Hombori et Bintagungu, les soldats maliens sont la cible des attaques terroristes. Une dizaine d'entre eux sont morts, dont un dans l'attaque du campement Kangaba à Bamako. David Dambélé, webmaster.
C'est des attaques qui ne me surprennent guère. Vous voyez que du nord, ça s'est déplacé tantôt à Bamako, après ça a remonté au centre et maintenant ça redescend à Bamako. Et je pense que c'est vraiment une situation qui interpelle vivement les autorités à rester sur les qui-vive. La Cour constitutionnelle, elle fait une analyse complètement à côté de la plaque. Sur le terrain, on ne peut pas tenir des propos comme ça. L'insécurité, elle est une réalité au Mali.
La priorité des autorité doit être la sécurité des personnes et de leurs biens partout au Mali. C'est ce que pense Boukari Daou, directeur de publication du journal Les Républicains.
De janvier à maintenant, il y a eu beaucoup d'attaques, il y a eu beaucoup de victimes, environ 500 victimes. On n'est pas sûr aussi que ça va s'arrêter de sitôt. Donc moi, je pense que nos autorités doivent savoir choisir maintenant les priorités pour que les Maliens soient plus sécurisés et abandonner vraiment les projets superfétatoire. Tout ce qui n'est pas l'essentiel, qui n'est pas la garantie de la sécurité des Maliens, abandonner ça pour vraiment se consacrer à la tâche pour laquelle ces autorités sont là.
Pour aider les forces de sécurité, il faut la collaboration des populations. C'est ce que préconise Ansoumane Maïga, Malien vivant aux États-Unis de passage à Bamako.
Il faudra que les populations collaborent. Il faudra que nous fassions notre introspection. Sans notre collaboration, ça ne peut pas marcher.
Le Mali est dans l'insécurité. Alors que cela fait 18 mois que l'état d'urgence est en vigueur dans le pays. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24 heures sur 24.
République centrafricaine, bien qu'elle ait eu une présidente de transition, la RCA connaît toujours une forte sous-représentation des femmes dans les instances de prise de décision politique. Pourtant, en novembre dernier, il y a eu adoption d'une loi sur la parité homme-femme. Sur 140 députés, seulement 12 sont des femmes, soit moins de 9%. Lors d'une émission sur l'abrogation des lois discriminatoires, Nathalie Barge a interviewé la première femme magistrate de Centrafrique et ancienne procureure de Bangui, Thérèse Dejean.
En Centrafrique, il y a la loi de la parité qui a été votée. Les femmes centrafricaines réclament qu'il y ait 35% des femmes au moins dans les instances de prise de décision dans les parlements, dans la politique. Et puis, bon, je pense qu'elles vont avoir gain de cause puisque petit à petit, les autorités commencent quand même à prêter beaucoup plus attention aux revendications des femmes. Mais pour que cette égalité soit effective, il faudrait encourager les jeunes femmes, les jeunes filles surtout, à poursuivre leurs études.
Mais ça rejoint aussi le problème de la discrimination à l'encontre des femmes et des filles. Parce qu'elles sont mariées très tôt. La femme subit des discriminations, non pas quand elle devient femme, mais depuis toute petite.
Depuis toute petite. Et un peu parfois, c'est la faute des parents. Parce que les parents n'encouragent pas beaucoup plus les filles à poursuivre les études que les garçons. Les garçons sont beaucoup plus encouragés à poursuivre les études que les jeunes filles. Et si nous voulons atteindre donc ce score de 35% déjà, avant d'atteindre celui de 50-50, parce que d'ici au moins une dizaine d'années ou plus, il faudrait qu'il y ait 50-50, comme on le dit.
Madame Dejean, vous qui avez connu cette époque des indépendances, quel chemin on a fait depuis? Parce que on a eu en même temps les années 60, donc la libération de la femme, et en même temps l'indépendance. Et moi, la question que je me pose, c'est ces deux éléments, ça a donné quoi?
Ben, au départ, en Afrique, ça a été très difficile parce que pour une femme, d'être à l'école d'abord, c'était pas ça. Et puis après, bon, mais il y a eu ces lois discriminatoires qu'il fallait que la femme demande l'autorisation de son mari pour ouvrir un compte en banque si elle travaillait, ou bien demande l'autorisation de son mari, de son époux pour voyager. Et puis, bon, après, à partir de 60, les filles ont commencé à aller quand même beaucoup plus à l'école, à avoir un certain niveau d'études. Et puis, la contestation a commencé à partir de ce moment-là où les filles ont commencé à travailler, à aller à l'école, à avoir un peu plus de formation, de compétences. Et petit à petit, je crois que c'est à peu près 5 ans après l'indépendance que les filles ont commencé à bouger. Et puis, les femmes, celles qui occupaient certaines fonctions, ont commencé aussi à aider, à voir comment les filles peuvent évoluer.
C'était la magistrate Thérèse Dejean, fondatrice de l'Association des femmes juristes centrafricaines. Elle était interviewée dans Le Monde au féminin de VO Afrique.
Salut, c'est Nathalie Barge. Juste un petit mot pour vous rappeler de ne pas manquer Le Monde au féminin ce mardi à 19h, temps universel sur VO Afrique. L'engagement des femmes dans les actions caritatives. De nombreuses femmes africaines se consacrent au service des plus démunis plusieurs heures par semaine, malgré le travail et la responsabilité familiale. Nous en parlerons avec l'une d'entre elles, Fatou Esther Touré, une passionnée du don de soi. Le Monde au féminin, c'est tous les mardis à 19h, temps universel, en direct sur la page Facebook de VO Afrique et en rediffusion le samedi à la même heure. À très bientôt.
64% des réfugiés se trouvent dans les pays en voie de développement ou à revenu moyen. Le Tchad est le pays qui accueille le plus de réfugiés par rapport à sa population, quatrième au monde après le Liban, la Syrie et la Jordanie. Solange Niamoulissa a joint Lydie Navigui, chef de bureau du HCR à Bagassola, pour un état des lieux par rapport aux réfugiés de la région du lac Tchad.
Pour la région du lac Tchad, nous accueillons essentiellement les réfugiés venus du Nigeria qui ont fui la crise Boko Haram. Mais le Tchad a d'autres réfugiés d'autres nationalités. Aujourd'hui, on a environ 8000 réfugiés au niveau du lac Tchad qui ont fui les exactions menées par la secte Boko Haram. Mais on a beaucoup plus de personnes qui se sont déplacées à l'intérieur même du Tchad. Il y en a environ 100 000 actuellement.
Quels sont les défis que rencontrent ces réfugiés?
Il y a de nombreux défis. Il y a des défis du point de vue de la sécurité, des défis du point de vue de la protection et des défis du point de vue socio-économique. En ce qui concerne la sécurité, avec les activités existantes d'éléments Boko Haram, la communauté humanitaire a du mal à se déplacer vers ces personnes-là, ça c'est un. Et deuxièmement, ces personnes-là sont obligées de fuir, de laisser tout tomber, de recommencer une nouvelle vie ailleurs. Ils ne sont pas dans les endroits qu'ils connaissaient avant. Ils sont coupés de tous leurs moyens de subsistance. Un autre problème aussi, il y a un grand déficit en matière d'éducation et en matière de structure étatique même. Et donc, une des grandes conséquences de cela, c'est qu'on assiste à des personnes qui n'ont aucune documentation, ni extrait de naissance, ni carte d'identité.
Chaque mois, le HCR demande l'argent pour aider les réfugiés, mais il ne reçoit pas. Est-ce que vous avez assez de moyens pour répondre tout justement à ces défis?
Bon, en termes de moyens, vous savez, c'est jamais assez. C'est jamais assez. C'est pour ça que nous sommes en train de changer, si vous voulez, de politique. Le moment de l'urgence est passé où on leur donnait une assistance à 100%, c'est-à-dire on a construit des abris pour eux, on a construit des latrines, des douches, des bacs à ordures, enfin tout. On leur a donné un centre de santé où les soins sont gratuits, les médicaments sont gratuits. On leur a ouvert des écoles où l'enseignement est gratuit et où les communautés hôtes peuvent venir aussi. Jusqu'à présent, on leur donne des vivres tous les mois, mais c'est jamais assez. C'est pour ça que, justement, on essaie maintenant de basculer sur les activités qui permettent l'autonomisation, mais en même temps qui gèrent les problèmes de coexistence entre les populations. Nous sommes en cela, c'est ça notre gros défi, c'est ça notre gros objectif, de pouvoir amener ces populations à être autonomes. On est en train de voir comment on peut les former, par exemple. On commence au niveau des jeunes, des adolescents, en termes de couture, de mécanique, des petites choses comme ça, pour qu'ils puissent avoir des activités. Pour les femmes, on a fait un petit volet d'activités génératrices de revenus en leur donnant du microcrédit. On les a regroupés en groupement. La pêche, on a mis à leur disposition des pirogues. C'est jamais assez, vous savez, c'est pour ça que nous espérons que d'ici 2019, en tout cas, ils soient beaucoup plus autonomes que maintenant.
C'était Lydie Naviguet, chef de bureau du HCR à Bagassola.
Oh.
Salut les amis, ici Roger Noutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et Sims Loubami pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.